The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
But the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. We beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, votre émission qui vous parle série télévisée avec Aurore. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le 12e épisode de la saison 5.
C'est tout à fait ça.
Voilà, avec les petites habitudes qui s'installent et qu'on ne changera pas aujourd'hui. Celle notamment de revoir avec toi deux séries que tu as visionnées pour nous, deux nouvelles séries dont tu vas nous donner un avis.
Oui, et on commence tout de suite avec une nouveauté qui est proposée par Netflix. Ça s'appelle en anglais « She's Gotta Have It » et en français « Nola Darling n'en fait qu'à sa tête », me semble-t-il. Donc, que peut-on en dire ? Mais on va commencer déjà par dire que c'est une série qui a été créée en partie écrite et entièrement réalisée par Spike Lee et qui reprend en fait l'idée originale d'un film qu'il avait réalisé dans les années 80. Je ne pense pas l'avoir vu ou en tout cas je ne m'en souviens pas. Toujours est-il que malgré tout, quand j'ai découvert cette série-là, la manière de filmer, la manière notamment dont le générique nous est présenté comme un déroulé de magnifiques photographies d'habitants de Brooklyn m'avait l'air malgré tout assez familière. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui a dû me rentrer dans la tête sans même forcément que j'en ai conscience. Alors ça nous parle de quoi ? Ben comme le dit le titre français, ça nous parle de Nola Darling. Nola Darling donc qui est une des habitantes de Brooklyn, qui est un quartier de New York qui est en pleine phase de gentrification, comme on dit, qui se boboïse de plus en plus, on dirait chez nous, ce qui tout de suite est beaucoup moins classe, tu la vois.
Ouais, c'est moins classe. Oui.
Mais il s'agit d'une jeune femme noire, artiste, qui essaie de s'en sortir comme elle est et surtout de rester fidèle à elle-même, à ses désirs, sans se laisser dicter ce qu'elle doit faire par les autres, par la société, etc. C'est le cas autant dans son art, elle est artiste peintre, que dans sa vie sentimentale, où comme elle est encore jeune, elle papillonne beaucoup, elle a plusieurs amants et elle ne s'en cache absolument pas. Elle ne leur cache pas à eux non plus, même s'ils ne l'acceptent pas forcément tous avec autant d'enthousiasme. Même au niveau de ses expériences, c'est pas forcément que des hommes. Il peut y avoir aussi d'autres types d'expériences. Et puis... On voit aussi que ben, c'est pas non plus facile de trouver comment gagner sa vie en tant qu'artiste. Et donc, à ce niveau-là aussi, elle essaie de trouver un moyen de s'en sortir sans devoir faire trop de compromis, quoi. Donc voilà, ça se présente énormément comme un monologue face caméra. En tout cas, on a très souvent un retour à ce monologue face caméra où ben, Nola Darling, le personnage principal, nous parle directement et nous explique un petit peu sa vérité, quelque part, avant de voir les scènes de sa vie réelle, entre guillemets. C'est l'occasion de pouvoir observer aussi une brochette de personnages assez hauts en couleur et tous très différents du quartier où elle habite, de découvrir certaines problématiques qui peuvent traverser la vie des habitants de ce quartier, c'est-à-dire notamment des problématiques ayant rapport avec la race, des problématiques pouvant avoir rapport avec l'acceptation de son corps, les injonctions qui peuvent être faites aux femmes et comment on va y répondre ou pas, ce genre de choses-là. C'est assez sympathique, je dois dire que pour le moment j'en ai quand même déjà vu 6 épisodes sur 10, ce sont des épisodes d'une trentaine de minutes, donc ça s'avale assez rapidement, on va dire, sans qu'on voit vraiment le temps passer,
oui.
Donc c'est frais, c'est très beau. Hein, au niveau des images, on voit vraiment que c'est réalisé par un maître, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, est-ce que pour autant c'est une série que je mettrais dans mon top, tu vois, ou ce serait un coup de cœur ou quoi que ce soit? Pas vraiment non plus, et je suis à peu près incapable de te dire pourquoi, en fait. C'est un petit peu bizarre, mais...
C'est peut-être trop frais pour toi.
Non, c'est pas ça. C'est juste que peut-être que le fait qu'elle nous parle énormément en face caméra empêche de totalement... s'immerger dans l'histoire, de totalement s'identifier à elle, puisqu'à chaque fois on est ramené à une forme de dialogue où elle c'est elle et nous c'est nous. Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que malgré tout, je n'en suis pas au point de me dire ah, ce personnage, je l'aime de tout mon cœur et je veux plus jamais le lâcher, quoi. Ça reste très extérieur et donc ça c'est le seul bémol que je mettrais, c'est que j'arrive pas trop à me l'expliquer vu que tout est beau, tout est bien fait, etc. Et en même temps voilà, ça reste quand même un exercice qui semble rester à l'extérieur de moi.
Tu n'arrives pas à t'identifier totalement.
Exactement. Voilà, ça c'est pour Nola Darling, N'en fait qu'à sa tête, sur Netflix. Je passe à la deuxième série que je conseille cette semaine-ci. Il va s'agir de Future Man, qui est proposé sur Hulu cette fois-ci.
Voilà, le truc délirant.
Voilà, exactement. Future Man, c'est déjà, pour avoir une petite idée de quel type de série il s'agit, il suffit peut-être de dire que c'est produit par le duo Evan Goldberg et Seth Rogen, dont on sait à quel point ils aiment les trucs, les gamineries un peu potaches, les trucs, enfin vraiment parfois assez lourdeaux des gamins, enfin des grands gamins qui n'ont toujours pas eu envie de grandir et qui font plein de bêtises. Ici, en l'occurrence, c'est un peu le cas puisque le personnage principal est un jeune homme qui vit chez ses parents et qui passe la plupart de son temps libre à jouer à un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qu'il est à peu près le seul à trouver génial, vu que apparemment les personnes du magasin où il va se fournir en jeu le moque un petit peu à ce sujet-là. Toujours est-il que quand on prend l'histoire, il est sur le point de terminer le jeu en question. Et on le voit le terminer. Il est évidemment super content, hein, tu l'imagines. Sauf que presque simultanément, on va avoir les deux personnages du jeu vidéo qui vont apparaître devant lui pour lui dire « Eh bien voilà, en fait ce jeu était un test destiné à repérer quel allait être le sauveur capable de mener notre combat avec nous. Nous venons du futur et nous devons empêcher une catastrophe qui mènera l'humanité à sa perte. » Donc viens avec nous, on t'emmène et on va essayer d'empêcher ce malheur-là d'arriver. C'est ce qu'ils vont faire et comme souvent dans ce genre d'histoire-là, ça veut dire qu'on va avoir des histoires de machines à remonter le temps. Enfin, ils vont réussir à remonter le temps pour justement empêcher. Au départ, c'est une histoire d'un scientifique qui a attrapé l'herpès dans une soirée dans les années 60 et il faut l'empêcher d'attraper cette maladie sexuellement transmissible. Donc voilà, alors tu l'imagines que ça n'est qu'un début, mais ça donne un petit peu le ton de la série. Il y a pas mal de références à Retour vers le futur dans le fait que, évidemment, si tu changes la moindre chose au passé, quand tu reviens dans ton présent,
Il y a des conséquences.
Il n'est plus exactement le même. Les deux personnages venus directement du futur sont assez... complètement dingue et même si il faut bien le dire, c'est vraiment une grosse je sais pas comment le dire, une pochade, ça se dit ce mot-là.
Me lance pas là-dessus.
Enfin, c'est vraiment un gros délire, un peu lourdeau. Il faut bien l'avouer, mais il y a des moments où tu peux pas t'empêcher de rire de bon cœur malgré tout parce que ils y vont à fond, quoi. Hein. Et donc le délire, tu peux être sûr qu'ils vont le tenir jusqu'au bout. Et ça, quelque part, ça, c'est vraiment très amusant à suivre malgré tout. Moi, je suis plutôt preneuse de ce genre de divertissement qu'il faut vraiment prendre comme ça, comme un pur divertissement. Et donc, j'en ai vu 5 épisodes jusqu'à présent et je compte bien continuer parce que vraiment ça m'a plutôt plu jusqu'ici, quoi.
Un bon moment de détente.
Exactement.
Voilà, pour ceux qui n'ont pas peur de rigoler de tout et de rien.
Voilà.
Bien. On a fait le tour ?
On a fait le tour.
Nous allons marquer notre première pause musicale. Grâce à toi.
Eh bien, on va s'écouter justement un titre entendu dans Future Man, ça s'appelle Break On Through, et c'est évidemment The Doors. You know the day destroys the night, night divides the day,
Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Nous voici de retour pour la suite de Sarifolie avec le sujet du jour abordé par Aurore. On va parler de quoi?
Alors, on va parler de certains métiers qui sont quand même pas mal représentés dans les séries et qui quelque part sont une sorte de mise en abîme de ce que la série elle-même est, c'est-à-dire le métier d'écrivain, de conteur, de raconteur d'histoire, et puis celui de comique, c'est-à-dire aussi dans ce cas-là qui sont généralement les créateurs, créateurs de la série, qui souvent sont à l'écriture aussi.
Ouais, et qui se mettent en scène, finalement.
Voilà, exactement. Et donc, pour commencer, on va commencer directement avec les conteurs sous toutes leurs formes. Donc, comme je le disais, ça peut être des écrivains, ça peut être des journalistes, ça peut être parfois des scénaristes, même si c'est pas très fréquent. C'est un métier qui est quand même régulièrement abordé sous une forme ou sous une autre. Alors, ce qui peut arriver, par exemple, c'est que au fil de la série, plus elle dure longtemps et plus on a de chance que l'un des personnages de la série finisse par devenir l'écrivain qui raconte leur histoire à d'autres personnes. Ça arrive dans pas mal de séries. Je pense par exemple à Oz, dans lequel le personnage, me semble-t-il, d'Augustus Hill avait sous son matelas ou quelque chose dans le genre une sorte de manuscrit qui reprenait un petit peu leur vie à l'intérieur de la prison. Donc il n'était pas que le narrateur et que celui qui racontait un petit peu ce qui se passait, son travail de narrateur va se prolonger par-delà sa seule présence dans la prison elle-même. Je peux penser aussi à une série comme Jane the Virgin, par exemple, dans laquelle on a un personnage qui est écrivaine en herbe et qui aimerait bien... qui finit d'ailleurs par écrire...
Publier, oui.
Un livre largement inspiré de sa propre romance, même si c'est toujours entouré de pas mal de magie particulière dans son cas. Je peux penser à quoi encore ? Je pensais à One Tree Hill, dans lequel on a aussi un des deux frères Scott en question qui finit par écrire un livre. Dans Dawson, évidemment. Hein. Dawson a le don de toujours récupérer tout ce qu'il vit pour en faire des scénarios après coup. Sur un tout autre mode, on va avoir dans Once Upon a Time, au début, dès le départ, on a comme ça une sorte de livre de contes que le petit garçon Henry trimballe avec lui. Et puis, au fur et à mesure des saisons, il va finir par devenir lui-même l'écrivain, me semble-t-il, même si je t'avouerai que c'est plus ou moins à cette époque-là que j'ai commencé à lâcher la série. Mmh. Donc, je n'ai pas suivi jusqu'où ça menait. Et on pourrait évidemment penser à d'autres séries, je suis sûre, qui reprennent également ce mode-là. Alors, on a aussi certaines séries où ce n'est pas aussi marqué, mais dans un épisode ou bien dans une saison complète, malgré tout, on a un des personnages qui s'essaie à l'écriture de manière plus ou moins convaincante, généralement moins, puisque souvent ce sont plutôt dans les comédies qu'on va retrouver ça. On a notamment le cas pour le moment, cette saison-ci, dans Fresh Off the Boat, où la mère de famille se veut écrivaine. Donc elle s'essaie à l'écriture, et bon... c'est pas forcément toujours glorieux, mais c'est intéressant parce que malgré tout c'est l'occasion de mettre en scène ce qui peut se passer dans sa tête, et puis aussi à chaque fois évidemment on va avoir une sorte d'écho qui se fait avec la vraie vie où les deux finissent par s'imbriquer les uns dans les autres. Je pensais par exemple aussi à un épisode des Simpsons où on a Marge qui décide d'écrire un roman sur fond de chasse à la baleine, si tu te souviens comme moi.
Oui, je me souviens bien.
Et cette histoire-là commence à s'imbriquer totalement avec sa propre relation avec son mari dans cet épisode. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant de voir comment à chaque fois on va avoir une manière de traiter l'écriture comme un art qui rentre en parfaite fusion avec la vie des personnages. Un autre exemple aussi dans une comédie, c'est dans Friends, quand Phoebe commence à écrire soi-disant une fiction où en fait elle ne fait que réécrire tout ce qu'elle entend autour d'elle, tous les dialogues qu'elle entend autour d'elle, et où finalement elle avait noté dans son livre le dialogue entre Chandler et Monica, où elle savait qu'il y avait un malentendu entre eux, ils n'étaient pas d'accord sur l'heure où ils devaient se retrouver au cinéma, je crois, et évidemment ils vont finir par lui en vouloir de ne pas l'avoir dit. Donc voilà, on peut avoir ce genre d'histoire-là assez régulièrement aussi dans les séries. Une autre série aussi où ils finissent par écrire assez souvent et où la vie et l'écriture s'imbriquent, ce sont les séries dans lesquelles on nous représente des jeunes femmes journalistes, mais journalistes plutôt sur... dans des rubriques, je sais pas comment trop les appeler, c'est plus mode de vie, un peu sexualité, etc.
Spiritualité aussi, peut-être un peu.
Ça, je vois pas du tout à quoi tu fais référence, mais moi, je pensais à une série comme Sex and the City, par exemple, où chaque épisode et chaque nouvelle expérience que vit Carrie Bradshaw est aussi une occasion d'en faire un article, une chronique pour son travail. C'est le cas aussi, ça finit par être le cas dans la série Awkward, où là aussi elle s'essaie à cet exercice. Plus récemment, dans la série The Bold Type, c'était aussi ce genre de journalisme-là qu'on retrouvait, où on avait comme ça une volonté. Alors, je crois que je sais pas du tout si c'est quelque chose qui est très fréquent chez nous. C'est vrai que comme je côtoie assez peu la presse féminine, je saurais pas te dire, mais en tout cas ça m'a l'air très très américain, cette manière de faire du journalisme réalité, où à chaque fois on se dit ah ben aujourd'hui on va essayer tel truc et on le vit d'abord et puis on raconte son expérience. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs séries comme ça. Donc ça aussi, c'est une manière quelque part d'imbriquer entièrement la vie et puis l'écriture en elle-même. Dans certains cas, le fait de raconter son histoire, que ce soit par écrit ou bien dans d'autres cas simplement oralement, c'est aussi simplement un procédé narratif qui est utilisé dès le départ. Je pense par exemple à How I Met Your Mother, par exemple, ou bien alors plus récemment dans la série The Guest Book, où tout le principe c'est justement de suivre les histoires que les hôtes d'un soir d'un chalet je me souviens plus du début de ma phrase.
C'est bête.
Oui, c'est un peu bête. Donc, ces hôtes d'un soir écrivent dans ce livre et nous, on suit cette histoire-là.
Voilà. Je m'apitoie sur ton sort. Hein.
Mais c'est gentil. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver. De fait, c'est aussi le fait d'avoir des personnages qui écrivent ou qui racontent eux-mêmes leur histoire. Mais ça va aussi pouvoir être utilisé par la série elle-même comme procédé pour amener l'histoire jusqu'au spectateur. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver aussi ? On a aussi certaines séries dans lesquelles on a un journaliste qui est totalement intégré à l'histoire qui nous est racontée, mais qui est présenté un peu comme le témoin. Et le fait que ce témoin soit présent permet aussi de nous présenter un point de vue un petit peu extérieur et qui cherche à comprendre, donc qui est un sorte de moteur d'explication. Je pense notamment à une série comme Génération Kill, où on a un journaliste embarqué dans l'armée et quelque part qu'on va suivre et on est un peu invité, dont on est un peu invité à partager le regard sur ce qui l'entoure. Alors, il y a aussi dans certaines séries tout simplement des écrivains ou des scénaristes qui sont représentés. On peut penser à Épisode, évidemment, où c'est vraiment la vie de deux scénaristes qu'on va suivre. Dans une série de cette année-ci, on avait aussi 10 Days in the Valley. Alors, je t'avouerai que j'ai pas été plus loin que le premier épisode, mais en tout cas, ça nous parlait d'une scénariste. Il me semble que c'est un métier qui, par rapport à sa présence dans la vie réelle, est quand même un peu plus représenté que qu'il ne le devrait si on voulait vraiment représenter le réel tel qu'il est, ce qui est évidemment parfaitement idiot, mais imaginons. Donc, et pourquoi ? Ben, justement, parce que j'ai l'impression que ça permet d'offrir tout un travail de mise en miroir de l'art qui imite la vie, qui elle-même imite l'art. Et donc, finalement, on n'arrive plus trop à voir où est la frontière entre l'un et l'autre. Et il y a beaucoup de jeux comme ça de miroirs qui peuvent se faire et qui sont assez intéressants à suivre, non seulement en tant que spectateur, mais qui sont aussi assez intéressants pour les possibilités qu'il offre en tant que scénariste. Je crois que c'est assez riche d'avoir ce genre de personnages-là qui sont des créateurs au sein de son histoire.
Oui, mais justement, c'est peut-être un peu la solution facile d'avoir à portée de main plus de possibilités qu'un scénario plus basique qui n'aurait pas ces petites pirouettes qui permettent comme ça de transposer à travers ce miroir en permanence et pouvoir jouer dessus.
Solution facile.
Y en a quand même beaucoup qui l'utilisent, il y a bien une raison.
Oui, c'est la raison, c'est que c'est intéressant, c'est que ça offre des possibilités supplémentaires. Maintenant, est-ce que c'est facile ? Pas forcément, parce que justement, ça va te forcer de jouer peut-être sur différents plans en même temps, à la fois sur le plan de la pseudo-réalité que tu es en train de raconter et la fiction à l'intérieur de cette pseudo-réalité. Donc, finalement, c'est plus riche et intéressant que facile.
Quand je veux dire facile, c'est pas vraiment l'exercice de style d'utiliser, c'est plus de se dire, si je prends ce type de scénario-là, je vais justement avoir quelque chose de plus complet, et donc peut-être que si je suis un peu mauvais dans d'autres aspects, ça va quand même passer, tu vois. Ouais, c'est très technique ce que
j'ai dit. Oui, je
c'est un peu prendre là une formule qui gagne, quoi, tu vois.
Ben, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit peu, entre guillemets, à la mode d'avoir un propos méta. Et peut-être qu'à ce niveau-là, c'est vrai, c'est la solution un peu toute faite pour justement pouvoir apporter ce point de vue-là. Mais à partir de là, enfin, tout dépend encore de ce que tu en fais, et le fait est que c'est pas toujours réussi, quoi.
Ni pertinent. Ouais.
Voilà.
Ok, ben voilà, je voulais avoir ton avis sur la question.
Ben voilà, tu l'as.
Ah bon, est-ce qu'on marque une pause ?
On passe à la musique, oui.
La musique, on t'écoute.
Alors, la musique, ce sera God Only Knows des Beach Boys, qui a servi de générique à Big Love et qui a aussi été entendu dans The Leftovers.
Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be with.
Suite de Sarie Folie avec ses personnages au rôle souvent représentés après les écrivains, les scénaristes.
Eh bien, on va parler des comiques.
Les comiques, mais oui, voilà. Il y en a aussi pas mal, c'est vrai.
Ben, il y en a pas mal et à mon avis depuis toujours, hein, depuis le début des séries, parce que finalement ça paraît assez naturel d'aller, quand on veut créer une comédie, d'aller se tourner vers ceux qui s'y connaissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui en font sur scène, et leur demander de créer leur propre personnage, de créer leur propre fiction. Alors, pendant longtemps, je crois que ça a été l'occasion simplement pour des comique de se faire connaître, et mais à l'intérieur de fiction où il jouait un rôle, et puis petit à petit et de plus en plus, j'ai l'impression on a affaire à des séries dans lesquelles ils jouent quasiment leur propre rôle, ou en tout cas ça devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, et donc on a des personnages qui sont eux-mêmes des stand-uppers ou en tout cas des comiques qui se donnent en représentation devant un public. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dans ces séries-là? Eh bien, comme je l'ai dit, le créateur est aussi celui qui va jouer généralement le rôle principal. Donc, s'il va être également acteur, et ben, de plus en plus, l'acteur en question va se confondre avec son personnage jusqu'au point de porter le même nom la plupart du temps. On peut penser évidemment à Jerry Seinfeld, on va penser à Louis C.K., on va penser à Maria Bamford plus récemment dans Lady Dynamite, on va pouvoir penser à Larry David dans Curb Your Enthusiasm, ou bien encore dans Crashing, je me souviens plus s'il joue son propre rôle, c'est Pete Holmes, mais je me souviens plus si c'est son nom ou pas. Là, je crois quand même que c'est un petit peu plus fictionnel. De même d'ailleurs que dans Master of None, où le personnage d'Aziz Ansari joue un rôle, joue un autre personnage. Il n'est pas lui-même, même si il est quand même acteur. Donc, il joue quand même un personnage auquel on peut assez facilement le raccrocher. Mais donc finalement, on peut constater que dans les séries, on représente... Il y a quand même pas mal de séries qui représentent ce métier-là en particulier. À nouveau, c'est sans doute surreprésenté par rapport au nombre de comiques qu'il existe dans la vraie vie. Dernièrement, on avait aussi eu la série I'm Dying Up Here, cette fois-ci, qui était plus... pas du tout une comédie d'ailleurs, qui était vraiment plus un drama qui nous a présenté la vie plutôt dépressive de comédien qui essaie de percer dans les années 70, me semble-t-il.
Oui.
Donc voilà, on a très souvent la représentation de ce genre. De ce genre de personnages-là qui permettent de brouiller totalement les frontières, puisque on n'arrive plus trop à faire la différence entre ce qui est mis en scène, ce que les personnages sont, ce que les acteurs sont, où va se trouver la différence entre les deux, est-ce qu'ils sont en train de raconter leur vie ou pas, et d'ailleurs la question a surgi de manière assez frappante dernièrement avec les scandales qui touchent Louis C.K. Ces derniers temps et dans lesquels on a quand même très très souvent dans les commentaires une sorte de remise en question où on va pêcher dans ces séries des indices de culpabilité ou d'aveu ou ce genre de choses. On dit oui, c'est vrai que quelque part on devait s'en douter parce que dans tel épisode de Louis, il y avait déjà ça, ou bien dans tel autre épisode de la série de Tig Notaro, on a une représentation d'un producteur qui a un comportement totalement déplacé lors d'un rendez-vous professionnel avec une jeune femme. C'est marrant à quel point finalement on fait plus du tout la différence entre le personnage et la fiction. C'est aussi très intéressant de regarder une autre série de Louis C.K. Dans les il joue également, qui s'appelle Horace and Pete, me semble-t-il, dans lequel il y a quand même assez souvent des dialogues sur des sujets un peu polémiques comme ça, et où les prises de position qui sont parfois tenues sont un peu... peuvent être un peu dérangeantes et où finalement on se demande quelle est la part de personnage et quelle est la part de prise de position de celui qui écrit dans cette histoire-là. C'est pas toujours évident à différencier les deux, vraiment pas. À ce niveau-là, ça, quelque part, ça va encore plus loin que quand on nous représente des écrivains, puisque là, généralement, ce sont encore des personnages à part entière. Dans ce cas-là, les acteurs ne sont pas eux-mêmes ceux qui ont écrit ce qu'ils sont en train de jouer, et donc il y a encore moyen de différencier les deux. Mais dans le cas des comiques, la frontière est totalement franchie, quoi. Et donc on n'est plus tellement dans la fiction, mais presque dans l'auto-fiction. Ils finissent par se mettre en scène eux-mêmes, et on finit par plus savoir faire la différence entre leurs personnages et ce qu'ils sont vraiment. Si tu regardes Larry David, c'est vrai que dans Curb Your Enthusiasm, on peut pas s'empêcher, surtout quand on a pu entendre des interviews sur lui et tout, de se demander, tiens, à quel point est-ce que c'est inventé, parce que malgré tout...
à quel point est-ce que c'est différent de sa vraie vie, parce que...
Voilà, parce que très clairement, il joue plus du tout le comique dans ce cas-ci, c'est vraiment la vie d'un type qui fait plus grand-chose de sa vie, il faut bien le dire. Mais par contre, quand on entend les interviews sur lui, au niveau de son caractère, on apprend c'est lui, quoi. Et donc, c'est assez particulier. Dans le cas de Maria Bamford, là aussi, on se demande... Alors là, c'est sur un mode très différent, puisque c'est vraiment plus des délires totalement fantasques qui sont mis en scène. Mais en même temps, on sait que Maria Bamford, justement, vit avec... je me souviens plus, c'est quoi son... sa maladie ou... Je ne me souviens plus, donc et il vaut mieux que je... Mais en tout cas, on a l'impression qu'elle met un petit peu en scène ce qui se passe dans sa tête aussi, quoi. Et elle nous invite un petit peu à partager sa folie, entre guillemets, à travers les scénarios qu'elle nous offre, quand on passe du passé au présent et au futur, et à chaque fois on se demande, tiens, à quel point le passé correspond ou pas à son passé, etc. On a aussi le même genre de choses qui...
De questionnement.
Voilà. Et donc, finalement, on se retrouve dans des séries dans lesquelles, à la fois, les comiques portent une sorte de masque, le masque de la fiction, le masque du personnage qu'ils incarnent, et en même temps, ils dévoilent aussi tout le côté plus dépressif dans certains cas, ou plus égoïste, ou plus immature du comédien. Et les deux vont se mélanger, et on est à la fois dans la... une manière de se camoufler, et à la fois dans une manière de se mettre totalement à nu devant les autres. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant comme exercice de regarder comment ils se représentent eux-mêmes, comment ils se mettent en scène, etc. Mais je vois que tu me fais des signes, donc on va s'écouter de la musique, peut-être.
Bah oui, le chrono est ce qu'il est. Malheureusement, on est déjà obligé de couper cette intervention par de la musique.
Alors, on va s'écouter Mamma Mia de ABBA, entendu dans Gilmore Girls.
Mamma mia, does it show again?
nous sommes de retour pour déjà conclure cette belle émission. Aurore, on t'écoute.
Oui, on va essayer de ramasser tout ce qui a été dit de manière peut-être un petit peu bordélique, hein. Je m'en excuse. Alors donc, la constatation qu'on peut faire, c'est que certains métiers, ici particulièrement donc la représentation de la vie d'écrivains ou de gens qui racontent des histoires, en tout cas vraies ou pas, et également les comiques, vont particulièrement bien incarner l'ambiance et les ambitions d'une série, ou parfois simplement en souligner la volonté, enfin ce qu'ils veulent porter comme message ou comme ambition, par exemple plutôt une ambition comique, plutôt une ambition nostalgique, plutôt un témoignage, etc. À chaque fois, eh bien on a une sorte de représentation d'un art, la série télévisée ici en l'occurrence, qui va imiter la vie de ceux qui ont fait de leur vie un art, que ce soit en écrivant ce qui leur est arrivé, ou bien pour les comédiens, où ils s'inspirent en permanence de leur propre vie et de l'absurde quelque part du quotidien, pour en faire matière à sketch sur scène. Je n'en ai pas parlé aussi, mais il y a aussi toutes les séries dans lesquelles à la base il y a un livre témoignage. Je pense par exemple à Orange is the New Black, où on va aussi avoir une sorte d'écho qui va pouvoir se faire, puisque le personnage lui-même est censé être celui qui a écrit le livre. Donc c'est une manière de rappeler à la fois que ce qu'il se passe à l'intérieur de la série, mais ça n'est jamais qu'une fiction. Et puis, en même temps, mais ça donne aussi un effet de réel. C'est totalement contradictoire, mais le fait de savoir que c'est inspiré d'une personne réelle ou que c'est inspiré d'une histoire vraie, etc., enfin, qui a un lien avec la réalité, ça va avoir les deux effets. Et donc, au final, c'est vraiment dans ces séries-là qu'on va avoir plus peut-être encore qu'ailleurs la vie et l'art qui vont totalement se confondre pour ne former plus qu'un.
Voilà, on l'a compris, ce sont des genres que tu apprécies beaucoup.
Oui, tout à fait.
Bon, ce sera le mot de la fin.
Ce sera le mot de la fin, oui.
Merci Aurore pour cette belle émission qui sera d'ailleurs podcastée, je le rappelle, dans les prochains jours via le site internet www.seriefolie.be. Les réseaux sociaux en feront le relais finalement. Et puis, on va se quitter en musique.
Oui, on va s'écouter Hard Rain's Gonna Fall de Bob Dylan, entendu dans American Gods.
Merci Aurore, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard rain you're gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers a-bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. So guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard, and it's hard, it's hard rains are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard. It's a hard rains are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-going back out for the rain starts a-falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty. Where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. And I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.